Bonjour Ben l'oncle Saul.
Salut Tom.
Bienvenue sur Énergie.
Merci.
Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase, c'est-à-dire qu'autour de toi, le temps va s'arrêter. Mais avant, il faut passer par une étape importante, c'est la rétrospective. 30 secondes durant lesquelles je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Ben, ta date de naissance ?
Le 10 novembre 1984.
La ville où tu as grandi ?
À Tours.
L'endroit préféré de ton enfance ?
Terrain de basket.
L'âge auquel tu as commencé la musique ?
10 ans.
L'artiste qui t'a le plus inspiré ?
Stevie Wonder.
Ton premier succès ?
Soul Man.
Le nom d'un titre que tu n'as jamais sorti ?
Qui est jamais sorti ? Ouais, je sais pas.
On passe en stase.
Ouais.
Ben, au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé et enfin dans ton futur. Est-ce que tu aimerais avoir ce pouvoir d'arrêter le temps ?
L'arrêter, ouais, ça peut être pas mal. Ouais.
Pourquoi faire ?
Pour profiter des instants qui passent trop vite, quoi. Par exemple, là j'ai une petite, elle a 6 ans. C'est passé à une allure, j'hallucine.
Ça fait quoi de voir ses enfants grandir si vite ?
Bah, ça tombe bien parce que, a priori, c'est comme ça que le temps est fait, quoi, tu vois. Mais si on a ce pouvoir-là, c'est juste de pouvoir profiter un peu plus de certaines étapes où finalement ils sont en mutation perpétuelle, quoi.
Ça a été quoi les étapes clés ?
Bah le balbutiement, tu vois, quand ils commencent à chercher leurs mots, ça donne lieu à plein d'accidents qui sont assez rigolos.
Ouais.
Ma fille, elle disait tirer la flaque d'eau pour aller aux toilettes.
D'accord.
Papa, c'est bon, j'ai tiré la flaque d'eau, elle me disait.
C'est mignon ça. Mm. On va parler de ton nouvel album. Sorti en mars, il s'appelle Sad Generation.
Yes.
Bon, bah, qu'est-ce que notre génération a de si triste ?
C'est plus la prochaine, là. C'est eux qui m'inquiètent, là.
La alpha ou la bêta ?
Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, la 2025, là. Non, mais si tu veux, c'est plein de détails de notre culture qui disparaissent un peu, qui s'évanouissent, qui s'estompent. Et. Ça va forcément. Moi, je fais ultra confiance à l'évolution. Il n'y a pas de souci. Je suis assez confiant. Je les vois assez vifs, assez intelligents. Je suis sûr que ça va donner lieu à plein de nouvelles choses. Mais c'est juste que c'est dur. Dans ma position, c'est dur de s'asseoir sur la qualité de la musique, sur des concerts avec des musiciens, sur. Tu vois, il y a de plus en plus de DJ qui viennent et puis c'est tout ce qui se passe, quoi, tu vois.
C'est-à-dire que quand tu parlais de détails, t'étais vraiment axé sur le plan musical, en fait. Quand tu parlais de Sad Generation, c'est plutôt une génération.
Voilà,
musicale.
C'est un exemple que je te donne, mais ouais. On va dire que, tu vois, la vie sur les écrans, c'est pas du tout une vie qui me réjouit pour nos gamins. Je me rends compte que c'est un peu le passeport, c'est un peu le passage obligé et je trouve ça un peu triste qu'ils soient le nez vers le bas alors qu'ils devraient être fiers d'être en pleine force de l'âge et fiers de qui ils sont. Et ça passe par, d'après moi, le regard, se porter fièrement, voilà, lève la tête, quoi.
Tu parlais de ta petite fille, est-ce que tu es vigilant à la maison par rapport à ses écrans, par rapport à ces technologies-là ?
Ouais, à fond.
Ouais. Ouais.
Ça fait partie de mon fils, il a 14 ans, il n'a toujours pas de téléphone portable. Il aimerait, hein, mais c'est vrai qu'il nous en tient pas rigueur, parce qu'il voit aussi tout ce dont il profite autour. Tu vois. Je lui dis juste, regarde, tu vois, à la récré, vous êtes tous sur le téléphone et vous regardez même pas ce qui se passe. Finalement, chacun, c'est une espèce de bulle individuelle qui me... Enfin, voilà. Enfin, je voulais pas péter l'ambiance. Hein.
Mais on est là pour ça, hein.
Ouais, ouais. On est là pour péter l'ambiance. Non, oui. C'est pas mon rôle, mais justement, en gros, cet album contient plein de messages plutôt positifs aussi, des petites prises de conscience par rapport à tout ça, et pour la nouvelle génération, et histoire aussi que, en fait, mon envie, elle est pas de les sermonner, elle est plus de connecter avec eux. Et c'est là où j'ai du mal à le faire, c'est que finalement, moi, je suis plus dans la vraie vie, je suis pas trop aux réseaux sociaux et tout. Je me rends compte que voilà, tout le monde me dit oui, il faut être sur les réseaux et tout, mais je dis même moi, si j'ai pas envie d'y être, je vais pas me forcer. Enfin, il y a plein de manières d'exister, notamment, moi c'est ma musique hein, qui me fait exister. Je trouve qu'on est plus ce qu'on fait que ce qu'on dit qu'on est. Tu vois ?
Moi, je l'ai remarqué. Tu parlais des générations qui arrivent, voilà, 2025, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit essoufflement de ces écrans-là. même ces jeunes de ces générations-là commencent à dire...
Parce que quoi? Parce qu'il n'y a plus de batterie, tu veux dire?
Non, vraiment, au-delà de ça, ils comprennent vraiment qu'il y a des travers, que ça va trop loin, que ça nous déconnecte. Est-ce que tu l'observes toi aussi parmi cette génération?
Moi, je ne suis pas, encore confronté à des gens qui se rendent compte des limites du jeu. Je me rends compte surtout que c'est un jeu qui prend beaucoup trop de temps et qui laisse des séquelles quand même sur les comportements, etc. Tu vois.
Oui, on commence à en voir les effets sur le long terme, je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, je reste... Et pourtant, ça ne me ressemble pas. Mais je reste un peu optimiste parce que,
ah non,
c'est
mais
vrai que je commence
je
à entendre...
complètement optimiste, c'est ce que je disais. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on va trouver des solutions et l'évolution passe forcément par certaines phases qui font que ça fait mal un peu ou on trouve ça... Mais voilà, c'est comme chaque révolution. Là, en l'occurrence, c'était à la base une révolution technologique. C'était obligé.
On va revenir sur ta musique, même si tu as donné un titre qui a... globalement assez contemporain, voilà, Sad Generation. On sent que tu as voulu revenir aux racines du blues et de la soul, hein, dans les sonorités, dans la façon de faire. Pourquoi c'était important pour toi de reprendre ces fondamentaux?
En fait, c'est le son que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai réussi à le trouver avec justement des mecs qui sont à la fois ancrés dans la culture blues, soul, mais pas seulement, et du coup aussi hip-hop, ils font pas mal de prod. C'est vraiment des beatmakers, quoi. Ils produisent du son, des producteurs au sens américain du terme. Là. Ils sont multi-instrumentistes, ils ont leur studio et ils ont leur propre chaîne du son. Ils ont vraiment un truc à eux qui me plaît bien. Du coup, on a pas mal de points communs. On est retourné vers l'origine du R&B et pas mal de sonorités blues, effectivement.
Ça doit être assez libérateur quand même, parce que tu me dis « j'ai enfin le son que j'ai toujours voulu avoir ». T'as une carrière de plus de 15 ans, donc c'était une quête extrêmement longue.
Ouais, enfin, j'espère que c'est pas terminé et que je suis pas arrivé et que c'est, si tu veux, les petites victoires qu'on rencontre sur un parcours, c'est d'avoir une vision sur un album et de se dire, tiens, pour cet album, j'aimerais avoir ça. Alors, je pense que ce serait intéressant d'avoir ça et de rencontrer ou de travailler avec tel et tel artiste. Et sur ce disque, j'ai eu l'occasion de le réaliser, donc je suis content, mais j'ai déjà d'autres petites visions pour la suite.
Alors, le thème de l'amour est assez récurrent. Et même s'il y a de très beaux titres comme New Place ou By Your Side, il y a cette crainte sous-jacente que cet amour ne puisse pas durer. Je ressens ça notamment dans Hard to Do et Will You Be There. Et est-ce que cette peur, tu l'expérimentes parfois dans ta vie?
C'est là où ton super pouvoir de pouvoir arrêter le temps, il aurait été utile quoi, dans quelques parties de ces expériences-là, justement. Pour avoir plus de temps, pour pouvoir construire autre chose, peut-être pour aussi essayer de tourner des pages différemment. Quoi. Mais ouais, forcément.
Ben, il est temps d'explorer ton passé. Alors, le passé, finalement, est intrinsèquement lié à ton univers artistique. On t'a connu avec Soulman, qui avait un côté très rétro, années 50, et finalement, cet aspect rétro ne t'a jamais vraiment quitté. Quand je regarde des clips comme Sky Has Open Doors en noir et blanc et en 4 tiers, Levitate, comme si c'était filmé en 16 mm, tes reprises de Frank Sinatra, d'Otis Redding, là on voit tes références. Qu'est-ce qui t'attache autant au passé?
C'est stylistique. Mon attachement, il est dans ma culture dans musicale, mais il est aussi dans ma culture, on va dire, ciné ou plasticienne, parce que j'ai un amour pour la peinture, par exemple, ou la photo, et je trouve ça cool, les textures, en fait. Je suis un layer man, quoi. J'ai besoin d'avoir des layers qui s'accumulent pour donner des textures, et puis un truc un peu, finalement, nostalgique, où ça donne juste l'occasion de brouiller un peu les pistes et de plus savoir trop dans quelle temporalité on est. C'est ça qui me plaît, je crois. C'est quand j'écoute de la musique, je m'évade, mais aussi je m'abandonne au temps. Je sais plus très bien si c'est 2 minutes qui sont passées, ou c'est 4, ou c'est 6, parce que je suis plongé dans la musique. Et je trouve que justement ce travail sur les filtres, sur les lacis, sur les couleurs, ça va être quelque chose qui t'aide à déconnecter du réel, quoi, on va dire.
T'as parlé de photos, de peintures, hein. Il faut savoir que t'as fait les Beaux-Arts aussi en études supérieures. Tu m'as dit que tu avais grandi à Tours, plus exactement à la cité des Perriers, c'est ça?
À Chambray-les-Tours.
Ouais. Voilà. Tu grandis avec ta maman qui t'élève seule. Ton papa, tu ne le rencontres qu'à 22 ans. Ton père était martiniquais et donc il était reparti en Martinique pendant que vous étiez resté en Hexagone. Toi, pendant ces 22 années, comment tu le vis?
Écoute, je m'en rends pas vraiment compte. Hein. Je pense que les enfants, ils s'adaptent j'étais pas du tout le seul être humain à être dans cette situation autour de moi. Je me suis rendu compte aussi que j'avais pas mal de potes qui avaient un schéma familial assez similaire. Donc on s'est tous fait avec ça. On s'est construit avec ce manque et je pense que ça a généré que des choses positives en fait.
T'as vu dans ta phrase, ça dit on s'est construit avec ce manque. Malgré tout, il y a un manque qui s'est...
Ouais, c'est évident. Ouais. Le déséquilibre, en fait, il était surtout sur le fait de pas savoir... C'est bien de savoir d'où on vient pour savoir qui on est d'une certaine manière et où on veut aller. Et c'est vrai que t'as l'air d'être plus un matheux, toi, mais Tom, le calcul avec une inconnue, ça fonctionne aussi, quoi. Donc, c'est juste que tu vas trouver un autre chemin et peut-être qu'il sera d'ailleurs plus intéressant que le calcul simple... 1 plus 1 égale 2, tu vois.
Et on peut trouver une solution, puisqu'on parle de maths. Tu le rencontres à 22 ans, donc on est entre 2006 et 2007.
Yes.
Tu le rencontres en Martinique, c'est ça?
Ouais, tout à fait, ouais.
Et moi, j'aimerais savoir comment se passe cette rencontre quand t'as 22 ans, quand t'es en Martinique et que tu vois enfin ton père.
En fait, la rencontre, elle est assez dingue. C'est que il trouve le moyen d'être en retard, quoi, ce con. C'est fou, mais en gros, je me dis, t'as un fils qui vient de métropole, ça fait 22 ans que tu l'attends, tu vois, et puis tu trouves le moyen d'arriver en retard à l'aéroport. Non, ce qui était fou, bon, la rencontre s'est bien passée, enfin, j'étais super bien accueilli. J'étais un jeune homme, donc j'avais un petit peu d'ego. Ouais, j'avais 2-3 choses à régler. Je me disais évidemment que je m'étais construit tout seul, que tout ça, ce qui est complètement faux quand on pense à l'ADN ou à l'héritage familial, tu vois, il y a plein de choses en fait qu'il m'avait transmis et finalement tu vas penser plus à ce manque qui t'a un petit peu blessé, rongé et tu vas vouloir lui mettre ça au visage et finalement il avait tu le remercies pas pour tout ce qu'il t'a apporté, c'est-à-dire en fait finalement j'étais un jeune homme en bonne santé, j'avais plein d'habiletés et j'ai plein de caractéristiques qui finalement se sont avérées plutôt payante, tu vois. Et ça doit venir aussi de lui, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il faut être... faut prendre vachement plus de recul et plus de hauteur par rapport à ça. On verra à la fin du jeu qui gagne et qui perd, mais je pense qu'on est personne pour connaître vraiment le parcours et les décisions d'une personne, quoi. Et quand je suis arrivé, en fait, voilà, je me suis présenté un petit peu... pas arrogant, mais je me suis présenté en m'affirmant homme.
Un peu fier.
Ouais. Blessé en fait.
Blessé. Tu disais, c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir qui on est. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es senti un peu plus complet? Est-ce que.
Si tu veux, il n'y avait pas vraiment de mystère, mais tant que tu n'as pas rencontré la personne, il y a quand même une inconnue qui laisse de la place à beaucoup de questionnements. J'ai l'impression que le cerveau humain, il a besoin de tellement de réponses qu'il n'aura jamais en définitive, mais. mais ouais, je. Ça a répondu à plein de choses. En tout cas, ça a équilibré plein de choses, ouais.
Comme quoi, par exemple, je sais que tu as partiellement répondu, mais comme quoi?
Non, mais en l'occurrence, je savais que je connaissais son origine, donc je connaissais historiquement l'histoire de la Martinique et finalement de connaître et de rencontrer mes frères et sœurs, mes oncles et tantes, mes grands-parents, c'est quelque chose qui s'apprend pas dans les livres. Enfin, tu vois, t'as besoin finalement d'avoir ça pour te sentir faisant partie d'une famille.
Tu vois, je viens d'avoir un déclic et pourtant c'est évident. La rencontre avec ton papa, t'en as déjà parlé dans plein d'interviews.
Ouais, ouais.
Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas que ça, c'est tout un pan de ta famille que tu découvres en réalité.
Ah ouais, bien sûr, ouais, il ouvre la porte sur tout l'arbre généalogique qui concerne sa lignée, quoi. Ouais.
Tu fais, toi, un arbre généalogique?
À ce moment-là, j'en ai fait un, ouais. J'en ai fait un qui a remonté jusqu'à Pondichéry, en Inde, avec un premier bateau négrier. Il y avait vraiment... j'avais regardé un peu comment tout ça était articulé. Ça peut donner encore une nouvelle porte... à toute une partie de la famille que tu connaissais pas, quoi.
On va parler de tes débuts en musique.
Ouais.
Ben, comment dit-on amour en malgache?
Fitiavana.
Et qu'est-ce que ce nom t'évoque?
Fitiavana, c'est aussi le nom d'un groupe de gospel dans lequel j'étais membre pendant plusieurs années, quoi. C'était un peu le premier groupe avec lequel je me suis vraiment formé au chant, aux harmonies, au travail de la représentation scénique, tout ça.
C'est avec ce groupe-là que tu fais tes premières dates à Paris?
Non, c'est avec le groupe que je monte.
D'accord.
Ouais, ouais. Les premières dates à Paris, c'est vraiment avec mon projet, avec mes premières compos. Et je fais la promo sur MySpace à l'époque.
Oula, tu m'as débloqué un souvenir là.
Ouais, ouais.
Ah oui, MySpace, il vient de loin.
Ouais, ouais.
Et ce groupe, tu le montes après ce groupe de groupe.
Après Fitiavana, ouais.
Bon, donc avec ce nouveau groupe, un jour, tu fais un café-concert.
Ouais.
Et dans la salle, il y a une certaine Diams.
À l'Opus Café à l'époque, maintenant c'est le Bizarre, c'est quai de Valmy.
Et ce qui est fou, c'est que Diams était la patronne de Motown France.
Ouais.
Donc c'est un label mythique, hein, pour ceux qui ne situent pas. Hein, c'est un label mythique des Temptations, de Marvin Gaye, de Michael Jackson,
ouais, Jackson 5,
Diana Ross. Et c'est elle qui te signe. Mais ce qui est fou, tu vois, c'est qu'il y a une rappeuse à la direction d'un tel label qui signe un artiste dont les influences sont soul, blues et en même temps R&B, peut-être un peu rap, avec les musiques avec lesquelles tu as grandi. Je trouve qu'il y a quelque chose de très symbolique. C'est comme si tu avais bouclé la boucle.
Exactement, ouais, non, mais ça, pour moi, ça a été d'ailleurs tellement évocateur que c'était rassurant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai eu le doute de signer avec une énorme major comme Universal. On peut toujours se poser la question, est-ce que je vends mon âme au diable? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et en fait, il y a eu plein de signaux où je me suis dit, ouais, il faut y aller. Notamment Diams. Je trouve que ça a été la caution aussi d'une certaine forme de liberté, de à se porter aussi le garant tout d'un coup du côté des artistes. Elle défendait forcément le côté des artistes. Ça m'a plu, ça m'a beaucoup rassuré. Plutôt qu'un directeur artistique que tu connais pas, qui va t'expliquer que en fait la musique, il faut que tu la fasses de telle ou telle manière. Je me sentais vraiment beaucoup plus accueilli et libre de faire ma musique. En parlant d'artiste à artiste. Et puis le deuxième truc, c'est évidemment ce que tu viens d'évoquer, c'est que c'était un label qui était sur quasiment tous les disques que j'avais moi à la maison. Comme je rêvais de devenir un peu cette espèce d'Américain de France, du coup ça correspondait complètement à mon rêve. Et bah, du coup voilà, je me suis pas posé de questions, j'ai foncé.
Bon, la suite on la connaît, hein. Diams te fait sortir la reprise des White Stripes, Seven Nation Army. Succès immédiat, puis tu sors ton premier album avec le single Soulman. T'as quand même eu une victoire de la musique des mains d'Avril Lavigne. c'est pas donné à tout le monde. Comment à l'époque tu vis cette nouvelle notoriété?
C'était nouveau, mais c'était quand même très grisant, très vivifiant, très excitant tout ça. Tout d'un coup, il y a tout un tas de rêves qui deviennent réalité. Il y a des prix qui tombent, il y a des récompenses, il y a de l'encouragement, il y a de l'enthousiasme aussi. Et puis t'as beaucoup de retours de tous tes proches, toute ta famille, voilà, qui hallucine en fait. Tout le monde hallucine un peu. Moi, je le vis bien, hein, je le vis bien, je le vis pleinement. On est un peu tout feu, tout flamme. On sait pas du tout dans quelle direction aller avec tout ça, mais on se régale sur le moment.
T'arrives à en profiter?
Ouais, j'en profite grave même. Ouais, on fait pas mal de concerts, on a fait des belles tournées. Je suis avec mes potes, donc avec le groupe que j'ai monté, avec pas mal de tourangeaux, quelques parisiens, les deux choristes qui sont mes potes, et on fait vraiment beaucoup de dates, beaucoup de pays. On a fait 13 pays différents, certains grâce à la francophonie, d'autres juste parce que c'est cool d'accueillir aussi le projet. Donc ouais, non, on en profite un max. Hein.
Tu dis que t'as fait plusieurs pays, d'ailleurs t'as vécu dans d'autres pays.
J'ai un peu bourlingué, ouais, mais j'ai fait surtout un petit les États-Unis, la côte ouest, quoi. Los Angeles et puis San Francisco, beaucoup.
Ouais. Et t'en tires quelle expérience de
Je fais un disque là-bas avec des gars que j'adore, qui s'appelle les Monophonics. Et en gros, c'est un groupe local qui fait de la funk psychédélique, on peut dire. D'ailleurs, on vient de perdre un gars super important pour toute cette culture-là, mais Sly Stone. De Sly and the Family Stone qui vient de partir et ouais, j'ai une petite pensée pour lui, mais bah c'est génial en fait, parce que moi je vis en France cette culture afro-américaine par procuration, mais finalement il y a personne qui me prend la main ici en France et qui me dit voilà comment ça fonctionne la soul, tu vois.
Ouais.
Je partage cet amour avec d'autres musiciens, mais qui n'ont pas forcément reçu à la base cette formation là. Donc il y a pas un doyen, il y a pas un repère, quelqu'un qui peut vraiment cautionner notre musique. Et à ce moment-là, c'est cool d'aller la confronter avec confronter ce que j'ai appris, ce que j'ai cru comprendre, ce que je connais de cette culture-là avec les gars qui ont vraiment grandi avec, quoi.
S'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que tu aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui?
Ça serait mon arrière-grand-mère qui s'appelle Jeanne. Et qui était une dame aux mains d'or, quoi. J'aime l'appeler comme ça parce que tout ce qu'elle touchait se transformait d'une manière peut-être un peu rustique, mais en magie, quoi. C'était très chouette. Elle cuisinait bien. Ses mains me fascinaient, en fait. Elle était très manuelle, toujours en train de faire quelque chose. Elle tricotait même aussi. Donc, on a eu tous des pulls, des chaussettes, etc. Mais voilà, c'est une dame qui m'a beaucoup couvé, protégé. J'adorais être dans ces jupons, quoi. J'adorais.
Ben, on a fait le présent, le passé. Que nous reste-t-il ?
Non, il reste que le présent.
C'est la première fois que ça m'arrive.
Ça reste
dans l'émission.
Non.
Dans la trame de l'émission, on a fait.
Non, mais j'imagine que tu veux que je te parle du futur.
Eh ben, bien sûr.
Ouais, bien sûr. D'accord. J'ai compris. Que nous reste-t-il ?
Ah, voilà. On a eu du mal à passer le futur, hein.
Mais en fait, on le connaît pas. On le maîtrise pas, celui-là. Tu vois, c'est.
Mais j'ai quand même écrit des questions dessus.
Ah ouais, je comprends. Bon,
non. Donc cette partie m'intéresse quand
non,
même.
Non, je suis désolé, je voulais pas mettre ton plan en l'air, tu vois.
C'est pas grave, il est toujours là, les questions sont toujours écrites sur mon papier, donc...
Allons-y, allons dans l'inconnu, alors vas-y.
Ah bah justement, plongeons dans cet inconnu, la première question était assez générale, mais comment tu le vois ce futur ?
Chaud, il va faire chaud, je pense.
Ah !
Ouais, je sais pas, je le vois... Je le vois dans les tropiques, hein. Ouais, je sais pas, peut-être en Martinique.
Tu y retournes régulièrement
Ouais, j'essaie d'y aller une fois par an, une fois tous les deux ans.
Quel coin de la Martinique ?
Écoute, j'ai de la famille aux Trois-Îlets et à Beaufond. Et puis j'ai aussi de la famille du côté de Rivière-Salée. Puis des potes un peu partout. Mais tu sais, c'est une île qui fait 80 km de longueur, donc c'est vite traversé, quoi.
J'ai remarqué quelque chose dans ta musique. Depuis ton album Under My Skin en 2016.
Ouais.
J'ai plus aperçu de titres chantés en français.
Ah bon ?
Ou alors, il y en a qui m'ont échappé. Mais en tout cas, dans l'essentiel, non, j'ai vu...
c'est vrai.
Il n'y a que de l'anglais. Pourtant,
raison,
le français, c'est ce qui t'a fait connaître.
Ouais, c'est vrai.
Pourquoi être complètement passé à l'anglais et envisages-tu un retour au français ?
En fait, si tu veux, je ne le vois pas comme un départ, comme une porte qui se ferme. Ou je ne le vois pas comme... ça n'a pas été une prise de décision. Tiens, j'arrête de faire du français. C'est vraiment, j'écoute tellement mes envies, mon humeur et mon plaisir que je me suis dirigé vraiment vers l'anglais pour approfondir certaines lacunes aussi, n'étant pas natif du continent américain. Mais du coup, c'est pas impossible que je rechante en français. D'ailleurs, je le fais finalement tous les soirs quand je suis sur scène.
T'as un rythme de publication d'albums assez régulier et assez soutenu tous les 2-3 ans. Est-ce que tu penses là, à l'heure actuelle, déjà au disque d'après ?
Toujours. En fait, quand je choisis de faire un album, j'ai déjà jeté des pistes à droite, à gauche, avant. Et en fait, à un moment donné, je choisis un carrefour où je dis, bon, allez, là, je m'engouffre plutôt dans celui-là. Mais oui, donc forcément, j'ai déjà posé quelques lignes à l'eau. Et j'attends que ça morde, voir dans quelle direction je pars pour la suite.
Et puis on verra ça d'ici 2-3 ans, parce que j'ai l'impression que t'es assez régulier.
Ouais, j'ai toujours besoin de m'exprimer, quoi. Enfin, de chercher, de m'amuser. C'est mon jeu favori, hein, la musique.
Nous arrivons à la dernière partie de l'émission. Ben, je demande à toutes les personnes présentes de quitter ce studio. Donc on va dire au revoir à Paul et au revoir à Léonore qui vont prendre la sortie.
Ah ouais, c'est dur.
Ah ouais.
Coup dur, là. Je suis désolé de vous mettre à la porte, mais c'est pas chez moi en même temps.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux me dire, Tom ? Qu'est-ce que tu veux me dire ?
Je vais déclencher la capsule. Tu seras complètement seul pendant une minute. L'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Ben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Open the capsule. C'est le moment où je prends les rênes de l'émission, là, c'est ça ? Alors, c'est super. Je voulais parler d'un truc. Ça tombe super bien. Je voulais parler de la peinture. Parfois, je me dis, si j'avais pas poursuivi avec la musique, j'aurais sans doute pas vraiment lâché ce truc de la peinture. Le travail autour de l'art plastique. Et j'ai pas de regrets, mais c'est vrai que des fois je me dis, tiens, qu'est-ce qu'aurait été mon parcours si j'avais pas eu ces belles rencontres, et si j'avais pas fait un parcours dans la musique, vu que mon rêve avant celui d'être chanteur, c'était d'être peintre. Voilà, au revoir, ciao, bye bye. Ha 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 ha.